Le loup, coupe pas ce projecteur.
On peut faire des films avec n'importe quoi.
Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film?
Non.
I'm not Steven Spielberg.
Qu'est-ce que c'est que le métier où tout le monde ment?
Coupez.
C'est comme ça qu'on fait des films.
Mais non, on s'en fout de ton film, le monde pas connu.
Elle était bien celle-là.
Aujourd'hui, ça tombe pas. L'émission qui interroge le cinéma, une fois par mois.
Tout le monde se remet en position de départ.
Aujourd'hui, ça tourne pas, c'est une émission qui donne la parole aux techniciens, aux artistes et aux professionnels du cinéma. Une porte ouverte sur le 7e art, un voyage en compagnie de ceux qui fabriquent les films pour découvrir avec eux tout ce qui se passe avant que la salle de cinéma ne s'éteigne. Aujourd'hui, ça tourne pas, et du coup, Pascal et moi-même, Pascal ici présent.
Bonsoir Greg.
Bonsoir Pascal. On a l'immense plaisir de recevoir une monteuse qui s'intitule Sophie Rennes. Bonsoir Sophie.
Bonjour les amis, je suis ravie d'être là.
Bonsoir Sophie.
Donc Sophie est tombée dans le cinéma toute petite puisque sa grand-mère l'a enfermée dans une salle de montage quand elle ne voulait pas faire ses devoirs. Voilà. Depuis, de fil en aiguille, elle a monté pas moins de 36 longs métrages, 23 courts. Elle a gagné en 2008 le César du meilleur montage pour Le premier jour du reste de ta vie.
2009, je crois.
2009, tout à fait.
Bien.
Elle a ensuite réalisé en 2016 son premier long métrage Cigarette et chocolat chaud. Avant, en 2009, elle avait réalisé son premier court qui s'appelait Janine. D'ailleurs, quand elle a demandé à Gustave Carverne, le comédien principal, de jouer dans son film et qu'il lui a répondu « Tu sais, Sophie, je ne suis pas vraiment acteur », elle lui a répondu « Ça tombe bien, je ne suis pas vraiment réalisatrice, si je ne m'abuse ».
Tout à fait,
je ne m'abuse.
Tout à fait.
Donc, vous avez pu récemment apprécier son travail de monteuse sur le film Suprême.
Voilà, Suprême.
D'Audrey Strugel, le film sur NTM, ou dans l'adaptation du roman de Vanessa Spingora, Le Consentement, qui est actuellement dans les salles.
Alors, je dois préciser sur ce projet, Le Consentement, que nous étions deux.
Deux, d'accord.
J'ai prêté main forte à Marion Monestier, je l'ai rejoint au bout d'un moment, donc j'ai repris toute la fin du film.
D'accord.
Voilà.
Et donc, sa dernière réalisation est encore sur Disney+, et c'est une série qui s'appelle Weekend Family, avec Eric Judor, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Sophie aime le karaoké, les gifs débiles, les films de John Hughes et de Jacques Nolo. Elle écrit, elle monte, elle réalise, elle a un minibus qu'elle a entièrement redécoré elle-même. Bref, aujourd'hui, nous sommes honorés d'accueillir dans notre studio un véritable tourbillon de cinéma et de paillettes. Bonjour et bienvenue chez nous, Sophie. On est ravis de te recevoir aujourd'hui.
Merci Greg pour cette chouette introduction.
Et donc pour commencer, on a fait un petit micro-trottoir pour en savoir un peu plus sur le métier de monteuse et de monteur.
Oui, bah, le monteur, il reprend tous les rushs, puis il est avec le réel quand même, je pense. Et puis sur son super logiciel, bah, c'est une énorme partie du boulot quand même.
Alors,
les séances et les ramène.
Il monte les scènes, quoi. Il les raccorde.
C'est la personne qui met bout à bout les scènes du film pour créer une dynamique agréable à regarder.
C'est la troisième écriture. La première étant celle par le scénariste, la deuxième réal. Et la troisième, le montage, parce qu'avec le montage, on peut faire raconter ce qu'on veut à une histoire.
Son rôle, c'est avec toutes les rushes, tous les plans, toutes les séquences qui ont été tournées. Déjà, c'est de choisir les meilleures, si elles n'ont pas déjà été choisies, et si elles ont été choisies, de faire un tri et de choisir ce qui rendra le mieux. Et ensuite, de monter tous les plans ensemble pour qu'il y ait une continuité, pour qu'on comprenne l'histoire, parce que toutes les scènes d'un film ne sont pas montées dans l'ordre chronologique, donc il faut tout remettre dans le bon sens.
L'émotion passe aussi par le montage, en fait. C'est super important.
En général, quand tu vois le montage, c'est que c'est pas très réussi.
Voilà, donc quelques points de vue sur le montage.
Tout est dit, j'ai l'impression. Allez, bisous.
Salut.
Du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, voilà, pour toi, ce que c'est le montage, ton métier?
Alors, mon métier, ça a été dit très bien, je trouve. C'est de raconter l'histoire avec le matériel qu'on m'amène et d'aller y ajouter ma personnalité, ma vision des choses. Parce que quand on choisit des rushs, on y va. Enfin, en tout cas, moi, je travaille vachement à l'instinct et je vais chercher le bout qui me surprend, qui me touche. Donc forcément, on y met beaucoup de soi. Et puis voilà, on met bout à bout et ça raconte une histoire.
Aussi simplement que ça.
Aussi simplement, ouais.
T'es rentrée comment dans ce métier? Ça t'est venu comment?
Alors moi, j'ai eu une grosse révélation. Parce que je viens d'une famille qui n'allait pas beaucoup au cinéma. Mes grands-parents habitaient, t'en as parlé un petit peu Greg en introduction, mes grands-parents avaient pris leur retraite dans un petit village du sud qui s'appelle Lorgues, près de Draguignan dans le Var, je vous le conseille, ce petit village. Et beaucoup d'intermittents du spectacle à la retraite venaient prendre ce petit village d'assaut et avaient leur maison secondaire. Et moi je me cherchais vachement autour de 13, 14, 15 ans, j'avais pas trop envie d'aller à l'école, j'avais bien envie de tout arrêter, l'école et voilà. Et ma grand-mère m'a présenté Geneviève Vaury, qui est décédée depuis, voilà, mais qui était une super monteuse et qui m'a dit ben, viens donc à Paris dans ma salle de montage et je te montrerai ce que c'est. Et je suis venue passer une journée avec elle, pas très convaincue au début, je savais pas du tout ce que c'était vraiment. Et là, elle m'a collée avec sa monteuse son. Alors, on était à l'époque du 35 mm. Et donc là, j'ai la monteuse son hyper gentiment me faisait faire des manips. On était en traditionnel, comme on dit, en film. Et elle a posé dans une rue noire, une rue sombre, elle a posé le son d'un chat qui miaulait. Et alors, je m'en souviendrai toujours. Quoi. J'ai halluciné, j'ai trouvé ça magique. Il n'y avait pas de chat. D'un seul coup, la rue était habitée. j'ai découvert vraiment ce que c'était la magie, l'envers du cinéma là, quoi. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit oh, je veux faire monteuse son. Enfin, je veux faire monteuse, quoi, en général. Et mes parents, ils m'ont dit elle n'a pas d'intermittent dans la famille. Alors, passe ton
ils
bac. Donc, j'ai eu
vacances.
Mon bac B, voilà, à l'arrache, économie, machin, voilà. Et puis, pareil, mes parents avaient envie que je passe. Je rentre dans une école où je suis rentrée à l'ESRA. Bon, alors, j'ai fait 6 mois d'ESRA. Dans une section qui n'existe plus, qui préparait aux grandes écoles, et voilà, et c'était pas assez. Je voulais aller dans FAME, et c'était pas FAME, l'école, donc voilà. Donc je me suis inscrite à Paris 8, où j'ai fait marionnette, voilà. Et en parallèle, j'ai cherché dans le Belfaille, à l'époque, un annuaire des professionnels, et j'ai poursuivi, harcelé, moult monteurs. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque.
Qu'est-ce qui a craqué?
Alors, le premier qui a craqué, c'est Hervé Schneid, qui m'a dit j'en ai marre, tu me poursuis partout. Non, mais j'envoyais des ballons gonflés à l'hélium dans des cartons. Quand on ouvrait la boîte, il y avait mon CV qui s'en. Et je me suis dit un jour, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit ils vont tous se réunir, se parler en disant mais l'autre folle qui a envoyé des ballons. Bon, bref. Donc voilà, donc Hervé, il a craqué au bout de 3 ballons et 2 messages à la mer dans des bouteilles et tout ça. Il m'a dit « Viens me voir ». Et je l'ai vu, je suis arrivée dans le café, j'ai renversé toute la table et tout le café. Donc, c'était super. Voilà.
En matière, je l'y rencontre.
Donc, voilà. Donc, il m'a fait travailler quelques mois après à la maison. Donc, ça, c'était cool. Et la première personne qui m'a donné ma chance, elle s'appelait Claire Meurine, cette monteuse son, qui nous a quittés aussi. J'ai fait un peu de montage avec elle. Et dans la salle d'à côté, il y avait un film qui s'appelait « Travolta et moi ». Patricia Mazui, Bénédicte Brunet, et donc voilà, j'ai appris à travailler sur du 16 mm. Et c'était très dur, et j'étais très nulle, et je me suis fait presque virer sur ce projet-là. Voilà.
Les débuts, c'est toujours un peu.
Les débuts, c'était difficile. Et je me suis dit, ben j'arrête.
Ouais. C'est vrai,
Ouais. C'était. Faut être vraiment organisé, quoi. Et c'était pas mon cas.
Donc là, tu étais en 16 mm, donc tu étais en.
Donc là, j'étais en 16 mm. J'avais pas fait grand-chose et on m'a un peu, j'avoue. Alors, Patricia a été super et tout ça, mais le reste de l'équipe, c'était plus compliqué parce qu'on m'a laissé vraiment. C'était un peu inconscient, comme ça, avec le matériel. Et on m'a dit, il y a une projo lundi. Et en fait, on a projeté la première bobine et ça n'allait pas du tout. Voilà. Donc j'ai arrêté. Et puis c'est là qu'Hervé m'a appelé en disant bah tiens du coup j'ai une place qui se libère. Et alors lui sur le film avec Hervé je montais les plans à l'envers, c'est-à-dire que les gens marchaient au plafond, les pieds voilà. Entre temps j'avais discuté, c'était à Auditel, un endroit de montage à Montparnasse. J'avais sympathisé avec la jeune femme de l'accueil qui m'a dit ah il y a une monteuse qui s'appelle Martine Giordano qui recherche d'urgence quelqu'un pour partir sur un tournage en province. C'était un film d'Eli Chouraki qui s'appelait Dis-moi oui.
D'accord.
Je crois. Et là, on est parti. Et Martine, ça a été vraiment la monteuse qui m'a fait.
C'était la rencontre.
C'était la rencontre, ouais, vraiment la monteuse qui m'a fait. Que j'ai suivie en stagiaire, assistante, tout ça, quoi. Et qui m'a fait faire même mon premier long métrage avec Jacques Nolot.
Comme monteuse.
Comme monteuse. Ouais. Et elle supervisait le projet. Voilà!
Donc des débuts en fait, ouais, où tu commences en fait un peu comme monteuse son, un peu comme assistante, et puis assez vite tu deviens monteuse.
En fait, quand j'ai commencé, alors Alors, comme tous les intermittents, j'imagine que Raphaël vous a dit ça aussi, on est stagiaire, assistant, hein. Donc voilà, et donc quand j'ai commencé à faire mes premiers trucs de chef, en fait, on m'a plutôt... J'ai commencé avec Solveig, en Spac, par exemple, j'étais monte-son. Et c'est, ouais, le montage-son m'éclatait vraiment. Et puis j'ai découvert les monteuses avec qui j'ai bossé, m'ont fait quand même faire pas mal d'images, ça me parlait beaucoup aussi. Et voilà, j'ai fait mon premier film avec Jacques et je me suis lancée.
Mais c'est vrai que même le enfin, après c'est un peu technique, mais c'est le montage virtuel. C'est-à-dire qu'avant, quand on bossait en traditionnel, c'était un peu plus long. Il y avait vraiment un travail physique de la pellicule avec un petit biseau pour couper et tout ça. Toi, tu as commencé en traditionnel et ensuite en virtuel. Est-ce que ça change une manière de fonctionner, de monter?
Alors déjà, moi, pour mon amour du montage, parce que je m'en défais toujours pas, ça m'éclate toujours autant et tout ça, j'ai l'impression, je suis pas sûre que j'aurais autant accroché à ma première révélation. Parce que là, il y avait... Moi, je pense que j'aime bien quand c'est pratique, quoi. J'ai du mal à j'ai du mal à intellectualiser, et donc ce côté ciseaux, colle et machin, ça m'a éclaté. Je suis pas sûre que j'aurais adhéré autant à un ordinateur. Nous, on est de cette génération, Greg, à avoir été assistant, à avoir été assistant de nos monteuses qui savaient pas trop servir de l'ordinateur quand ça arrivait. Donc on était là, voilà. Donc on arrivait à un moment chouette aussi où on faisait les manips de nos monteurs, on commençait à servir un peu de l'ordinateur. Moi, j'y vois pas, à part que c'était chouette parce qu'on était plein dans une salle, que c'était la pellicule, c'est le cinéma, quoi, pour moi. Sinon, finalement, ça change pas trop la donne, non? Moi, je crois pas que ça soit la technique qui fasse qu'on... Enfin, c'est pas si on est très bon en avide. C'est pas ça qui marche, quoi. C'est si on arrive à justifier son point de vue, à dire non, mais moi, je ressens ça, avoir le...
Faut avoir envie de dire quelque chose.
Faut aimer ça parce que on est dans une salle tout le temps assis. C'est pas non plus. On dit que c'est super chouette tout le temps, mais parfois c'est tendu. C'est des grosses responsabilités. On est vraiment la fin du truc et la partie où le film se construit. Donc on a une grosse pression. Mais voilà, mais ça reste un truc magique tout le temps, quoi. Des fois c'est dur. Des fois on s'engueule et des fois on quitte les projets. Mais globalement. Je m'en lasse pas, quoi.
Et tu as donc réalisé un film qui s'appelle Cigarette au chocolat chaud, il y a quelques années.
Oui, tout à fait.
Et donc, comment est-ce que Qu'est-ce ça s'est m'a... passé le,
Qu'est-ce
le...
qui m'a pris
C'est un peu super, la question qu'on avait.
Un super joli film que vous pouvez encore voir sur des plateformes. Je vous dirai où, en lien.
Alors, moi, j'ai la chance d'avoir plein de trucs qui m'a... Enfin, ça, les choses m'arrivent un peu comme ça. Et j'ai toujours peur, mais j'y vais, quoi. Un truc, bon. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Mandarin Cinéma et Rémi Besançon. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur beaucoup, beaucoup de films. Donc ça, c'est génial. Dont Le premier jour du reste de ta vie, qui était un beau film qui a marqué plein de gens. Et à la fin des films de Rémi, je bricolais comme j'ai que ça à faire. Je piquais des bouts de répliques du film. Sur Le premier jour du reste de ta vie, j'ai demandé à toute l'équipe en cachette de m'envoyer des Super 8, parce qu'il y a des questions de Super 8 dans le film. Et je me suis retrouvée avec 3 mois de montage après le montage. Et donc, en cachette, je bidouille un espèce de petit film que je projette à l'équipe. Et Isabelle Grelat m'a dit, la productrice chez Mandarin, elle m'a dit « Oh là là, on aimerait bien faire un... T'as pas une idée de projet avec toi et tout ?» Et j'ai dit « Moi, je sais pas faire, quoi. Je suis plutôt monteuse, tout ça. » Et puis finalement, je suis partie en montage sur un film très compliqué. Et après, je me suis dit « Bon, je fais une pause. » J'ai rappelé Isabelle en disant « Donc, on parlait du... » Bon, voilà, bref. Et donc,
j'ai pensé que ça allait être une pause de faire...
Et voilà, je me suis dit « Tiens, je fais une pause. » Voilà, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Et voilà, et donc, on a écrit, Janine, mon premier court-métrage, qui raconte un peu ma vie. C'est mes filles dedans, c'est tous mes copains monteurs son qui font la régie. Enfin bref, c'était vraiment homemade. Et ce film a été acheté par Canal, ce petit court-métrage, donc ça, c'était chouette. Et là, Mandarin m'a dit, viens, on ferait pas un long. J'ai dit, ouais, je suis pas sûre de le réaliser, parce que c'est beaucoup, quoi. Et puis, j'ai mis longtemps à l'écrire, et puis finalement, je l'ai réalisé. Voilà, c'est un chemin un peu, c'est un peu bizarre, quoi.
Les filles, je compte sur vous. Hein. pas de café, mais si vous voulez un chocolat... Ou...
Non, non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Alors, monsieur Patin, comment on gère l'argent dans cette maison?
On gère comme on peut.
Par exemple, bah, le samedi midi, bah, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin.
Malin, oui, c'est le terme approprié.
Et puis, 5 ans après ou 4 ans après, sans savoir pourquoi, Disney m'appelle. Enfin, sans savoir, ils faisaient une série sur une famille, donc voilà. Mm-hmm. Donc les choses m'arrivent un peu... Et voilà, et j'y vais...
De bon cœur.
De bon cœur, voilà. Et après, je reviens au montage avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Du plaisir.
Je sens que c'est bien ma place.
Donc oui, le montage, en fait, ouais, c'est des métiers... Là, pour le coup, le montage, c'est un métier qui est ultra visible quand même, parce qu'il y a quand même, tu as eu un César, pour le coup.
Alors, le montage, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'en même temps, là, les gens qui parlaient dans la petite... micro-trottoir du début, ils avaient l'air de bien connaître les trucs, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout connu. On est parfois la dernière roue du carrosse quand même, c'est-à-dire des fois on se sent un peu seul, on peut nous oublier ou des choses comme ça, parce que c'est, on est un peu le pendant du scénario, j'ai envie de dire quoi, c'est-à-dire qu'on est chacun dans des moments, donc on est en même temps au plus près de la réalisation, du réalisateur, et en même temps un peu tout seul quoi. Ouais. Donc c'est chouette, peut-être pas assez reconnu, je sais pas, pour ce boulot énormissime. Voilà, c'est un métier un peu de l'ombre, on peut dire.
Sur le rôle du monteur, il y a une phrase de Paul Hirsch justement sur ce poste un peu d'influence, mais où finalement on n'a pas de pouvoir réel, parce que c'est évidemment le réalisateur, enfin il disait que c'était un peu comme la reine d'Angleterre, quoi, c'est qu'on a peu de pouvoir, mais de l'influence.
Oui, c'est ça, ouais, c'est... Pas, voilà. Ah, c'est bien, ouais.
Et alors, ça change quoi d'avoir un César? Tu penses que ça ouvre...
Alors, moi, déjà, pour de vrai, on le dit tout le temps, mais moi, je ne m'attendais, mais pas du tout. Mm-hmm. Donc, c'était sur le premier jour du reste de ta vie. Quand j'ai vu mon nom sur le truc, j'ai halluciné. Et ce soir-là, il y avait Entre les murs de Laurent Cantet, il y avait Mérine de montée par Hervé Schneid. Voilà, et franchement on était là cool Raoul quoi. J'étais avec mon assistante Claire Fesky, que j'avais voilà, et qui y avait
Jean-François
quoi,
Jean-François Richet, pardon.
Ah, oui, Jean-François, oui. Et voilà, et donc franchement on était, alors je dis pas qu'on était super à l'aise, hein, parce que c'est toujours il y a beaucoup de monde et tout ça, mais franchement, ouais, on rigolait, quoi. Et voilà, et quand ils m'ont appelé, là, j'ai halluciné, et je suis montée, alors, je sais même plus ce que j'ai dit, j'étais... Donc, c'était vraiment, vraiment flippant pour moi, parce que le monteur, quand il sort de son truc,
de sa salle,
c'est quand même... ouais, c'est on se fait un peu violence, quoi. Mm-hmm. Et j'ai mis 15 jours à redescendre et à réussir à me voir à la télé, quoi. Et après, bah, c'est chouette. Moi, je trouve que oui, ça ouvre forcément des choses. C'est comme si ça mettait un espèce de petit tampon sur un truc, quoi. Alors, c'est pas pour le bien et le... Ça veut rien dire et tout dire, quoi. Mais en tout cas, c'est... Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'est chouette. Ouais. Donc, il est posé sur une cheminée.
Il est dans
cheminée.
Ma chambre.
Il sert de presse-papier ou de pied de
table. Non, bah, je vais pas... Enfin, ouais, moi, ça me fait plaisir.
Ouais, c'est cool.
Je renie pas mon... Voilà.
Mm-hmm. Tu boudes pas ton plaisir.
Ouais, je boude pas mon plaisir. Mm-hmm.
Elle ne boude pas son plaisir non plus et elle nous en apprend toujours plus sur le monde étrange et merveilleux du 7e art. Tout de suite, c'est la chronique de Cécile et ses secrets du cinéma. Ce mois-ci, elle nous parle d'une célèbre expérience de montage.
Bonjour à tous. Dans la première émission, je vous parlais du cri Willem, ce running gag que les monteurs son s'amusent à glisser dans les films. Est-ce que vous l'avez repéré depuis ? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une expérience datant de 1921 qui a mis en évidence le rôle fondamental que joue le montage sur notre compréhension du film et sur nos émotions. En gros, c'est le cerveau humain qui fabrique du sens entre les différentes images qu'on lui propose. Un réalisateur russe, Lev Kuleshov, l'a démontré en réalisant l'expérience que je vais vous décrire. Il a tourné un plan de l'acteur vedette de l'époque, Ivan Mojoukin. Il lui a demandé de garder une expression neutre, de ne laisser paraître aucune émotion particulière, un visage un peu figé. Puis, il décline ce plan 3 fois à l'identique, car il a l'idée de l'associer à 3 autres plans fixes également. Donc la première fois, il fait suivre le visage neutre du comédien avec une assiette de soupe. La deuxième fois, le plan est suivi de l'image d'un cercueil avec un enfant. Et enfin, la troisième image montre une femme lascivement allongée sur un canapé. Pour finir, il montre à un panel de spectateurs les six plans montés les uns après les autres. Et devinez quoi ? Tout le monde a trouvé l'acteur génial, brillant, capable d'exprimer avec finesse trois émotions : la faim, la tristesse et le désir. Alors quoi ? Soit ils ont été victimes d'une hallucination collective, soit c'est la preuve que le cerveau des spectateurs a été berné par la succession des plans. Soit pas un peu des deux, en fait. Kuletchov démontre, avec cette expérience, que nous sommes sans cesse en train de chercher à créer du sens en connectant des choses qui ne le sont pas en réalité. Un besoin, sans doute, de se raconter des histoires encore et encore. Voilà, c'était l'histoire de Lev Kuletchov qui a réussi en 1921 et avec seulement 6 plans à expliquer les fondements du montage au cinéma.
Sophie, qu'est-ce qui se passe dans une salle de montage, en fait ?
Eh bien, une journée de montage, c'est...
Qu'est-ce qui fait que c'est important dans le processus
d'un film ? Dans le processus d'un film ?
Ouais, le montage.
Alors déjà, comment on se choisit avec un réalisateur, peut-être ? Donc, on fait en général une rencontre. Parfois, le réalisateur rencontre plusieurs personnes. Parfois, il a envie de bosser avec nous pour notre filmo, pour... Et en fait, c'est vraiment... Moi, de plus en plus, je choisis le projet où on me choisit. Moi, j'ai envie que ça se passe bien dans une salle. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on a du mal à réfléchir quand on n'est pas, quand on se sent pas en phase avec la personne, plus ou moins en phase, mais quand même, faut qu'il y ait quelque chose qui matche, quoi.
Surtout que c'est un petit lieu, on a difficilement.
C'est un petit lieu, c'est vachement angoissant pour un réalisateur de découvrir un premier montage, de chercher quelque chose qui marche pas. On peut vite s'énerver. Alors nous, on est là un peu pour. Écouter, aider, orienter. On est ceux qui avons le recul. On ne s'est pas tapé tournage crevant avec des choses qui nous semblent ratées. Tout ça, j'accueille toujours les rushs avec bienveillance, quoi. J'ai aucune angoisse. C'est du boulot. C'est des angoisses au quotidien de me dire « Ah, ça, je n'ai pas trouvé. Faut qu'on cherche cet endroit-là. » Mais je sais qu'à la fin, on y arrive. Et c'est ça que je trouve génial avec le montage versus le tournage. C'est qu'au tournage, j'ai l'impression que les choses sont bouclées très vite et puis on s'arrête, voilà, la journée est finie. Alors qu'au montage, on y passe sa nuit, ses week-ends, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui est possible à trouver, quoi.
Il y a toujours des options.
Il y a toujours des options. Si j'aime pas un truc ou si on n'aime pas un truc, on peut. Je suis sûre qu'on aura une solution. On trouvera un truc à un moment, quoi.
Ouais. En fait, dans le concret de la fabrication du film. Est-ce que tu travailles sur le jeu des comédiens ? Est-ce que tu travailles sur la narration ? Quels sont les skills qu'on doit avoir ?
Alors, concrètement, moi, ce que j'adore, c'est faire un premier truc un peu moche. Un peu moche, ça veut dire les plans longs, des trucs qu'on va virer.
Un bout à bout, un ours mal léché,
voilà. Mais d'avoir... assez vite, avoir une continuité, alors qu'il y a des monteurs, monteuses avec qui je discute, qui sont plutôt pour fignoler vachement le truc et tout. Et moi, je me dis, je préfère faire un truc un peu comme ça, gros, large, et comme ça, je sens assez vite ce qui va marcher, pas marcher, ce qu'on peut inverser, tout ça, voilà. Donc ça, c'est le premier truc.
Plutôt monter structure avant de rentrer dans
les
détails.
Voilà, plutôt structure, parce que j'arrive à me dire, bon, ça marche pas tellement, mais voilà. Et comme ça, on va aller dans le temps qu'on a, on va aller vite se focaliser sur ce qui ne marche pas. Et du coup, on passe du temps sur ce qui ne marche pas en sachant que le reste, ça va marcher, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. On parle évidemment beaucoup de l'histoire avant, de comment le réalisateur voit les choses. Moi, en général, la plupart de mes expériences, on s'entendait bien avec le réal, la réalisatrice. Et puis, on se disait « Ah bon, tu crois ? Ah bon, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin voilà, on était dans un brainstorming comme ça, à tel point que moi j'adore quand d'un seul coup on se dit « Ah bah tu vois, t'as eu raison de me dire de couper ça » et on me dit « Ben non, c'est toi qui as eu l'idée. » Voilà. Donc ça veut dire que ça se passe bien. Il faut être une équipe, quoi, parce que sinon...
C'est quoi une équipe quand tu montes,
à
toi,
l'époque,
maintenant ?
Alors aujourd'hui, on est un assistant, un monteur. Quand ça se passe bien, l'assistant est avec nous tout le temps. Moi, je me bats pour ça. Quitte à rogner sur mes semaines à moi, j'en sais rien. Enfin bref, je trouve que je serais trop triste de bosser toute seule. Donc, en général, je travaille avec un assistant, une assistante avec qui je brainstorm beaucoup. Moi, j'ai besoin de, voilà, de, d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas le réa, parce qu'on peut se dire des trucs, on peut élaborer des surprises avec l'équipe et pas avec le réalisateur. Enfin, je veux dire, le réalisateur aussi, on les aime, hein, bien ouais. sûr, mais en tout cas, c'est vachement agréable pour il ou elle, réalisateur, réalisatrice, de découvrir des choses.
Et l'assistant, vraiment, on peut dire, prépare vraiment
et l'assistant. Alors, l'assistant, il fait ce qu'on appelle la synchronisation image et son grâce au CLAP. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. L'assistant-assistante range tout pour qu'on retrouve tout le mieux possible. Parce que sur un ordinateur, c'est pas plus simple que dans une salle avec des clous. Hein.
C'est vrai.
Il faut retrouver le truc. Voilà. Donc, on tourne beaucoup plus. L'assistante prépare le projet et tout. Moi, je lui demande pareil, un gros boulot de. Un travail sur le son, en tout cas, aussi, qui nous aide. Un peu de pré-montage aussi. On discute, tiens, essaye ça pendant que je fais. Voilà. Donc voilà, l'équipe aujourd'hui, c'est ça.
D'accord.
L'équipe montage, image. Après, se rajoutent des monteurs son et tout ça. Mais alors qu'on était en traditionnel, beaucoup plus. Quoi. On était, y avait un assistant, souvent deux stagiaires, parce qu'il fallait que ça tourne.
Oui, bah, il y avait une matière. Enfin, en termes de matière, il y avait du matériel. Ouais. Là, pour le coup, l'informatique a changé la donne un petit peu.
Oui, a changé la donne, mais c'est pas... les temps sont plus courts. C'est dommage, parce qu'on a toujours le même temps de pensée, en fait, le temps de digestion du truc. Donc voilà. Alors que le matériel est presque moins cher, j'ai envie de dire aujourd'hui, le temps est plus court. Alors bon, c'est comme le monde, quoi. Ça va pas forcément. Non, mais c'est vrai que c'est. On aimerait bien avoir plus de temps dans les salles.
Ça dure combien de temps à peu près? Enfin, c'est entre quoi et quoi?
Alors, on compte à peu près le temps du tournage qu'on multiplie par 2,5.
D'accord.
C'est okay. un peu ça ce qu'on nous dit.
Donc, parce qu'il y a 8 semaines de tournage égale combien de semaines de montage?
20 semaines, allez, hop, la 22 semaines.
Voilà. Et ça, c'est quand ça se passe pas trop mal aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, j'ai pas de limite de temps. C'est ça qui est.
D'accord.
Je le dis avec. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'y arrive pas. Quand j'ai pas trouvé, je reste, quoi. Je me fais des bonnes grosses journées.
Je me demandais justement si de temps en temps, t'allais chercher des. Je sais pas, un personnage, quelque chose qui fonctionne pas, si t'arrives à t'en débarrasser d'ailleurs. Ou si tu vas chercher, essayer de retirer, comment tu peux patiner un acteur ou un personnage.
C'est là où le montage, c'est vraiment un endroit. Moi, je trouve que c'est un peu magique parce qu'on fait vraiment des espèces de tours de passe-passe. Je sais pas, moi, des trucs tout bêtes. Je pense au post-synchro, par exemple. On va inventer un autre dialogue sur la personne de dos et qui va. Donc, en fait, on peut réécrire. Pas à l'infini, mais quand même. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à un moment, il faut avoir une conviction et se dire, là, ça marche, parce que sinon, on devient fou. Mais on peut complètement... un acteur qui prend vraiment son temps, et ça fait que le film dure, parce que le temps qu'il dise deux phrases, nous, on peut le monter différemment. Donc, c'est un boulot énorme, parce qu'il faut aller chercher la petite phrase, la mettre de dos, nanana. Enfin, bref, on s'adapte. Mais on est là pour complètement modeler un personnage... et le personnage du scénario et aussi la réalité des choses, c'est-à-dire l'acteur qui et il y a des acteurs qui sont géniaux
une fois montés
et c'est super parce qu'on découvre au fur et à mesure le personnage et c'est pas un défaut où il y a des acteurs avec qui on a du mal, mais de toute façon le plus gros du boulot c'est sur il y a la structure, mais c'est quand même sur
le jeu des comédiens,
enfin le plus gros du boulot, le plus passionnant on va dire, puisqu'on peut et ça pareil, quelle prise ou quelle autre prise, enfin un choix entre deux prises, là on discute avec le réalisateur où on va à l'instinct et on prend parfois la prise qui était ratée au tournage et qui nous semble et qui marche super bien.
Qui, techniquement il y a un micro ou il y a un truc,
il y a un truc qui marche pas et il y a une magie qui opère, on est on dit mais ça c'est génial, son erreur dans son dialogue, ça marche trop bien, ça va le faire et ça va amener un truc et voilà, et c'est là où le montage, c'est génial. On invente des trucs, quoi.
Mais il y a vraiment un truc, je trouve, au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est tourné, donc c'est fait, et a priori, ça ne bouge plus. Mais en vrai, quand tu as une scène qui va dans une direction et que tu as envie de parce que scénaristiquement, il y a besoin de quelque chose, parce que tu trouves que le comédien, il amène un truc et que tu as envie d'aller dans cette direction-là, je trouve qu'on arrive à finalement à faire un peu dire ce qu'on a envie au bout d'un moment.
Oui.
Alors pas en tapant forceps et en insistant lourdement, mais juste en se débrouillant, en faisant. Il y a un peu de bidouille quand même dans ce métier.
Ouais, c'est de la bidouille, je trouve. Tous les trucs qu'on pique. On aménage une maison un peu, si on prend cet exemple-là, et puis on met un truc qu'on a chiné, un peu moche, mais qu'on aime, un truc, voilà. Donc, on a une conviction forte que ce personnage, à ce moment-là, il doit être triste, ou je sais pas, enfin, c'est un peu débile comme exemple, mais et donc on va tout faire pour ou faut qu'il ait compris un truc qu'il aurait pas dû comprendre à ce moment-là, et on va bouger un peu la structure et faire en sorte qu'ils comprennent un peu avant. Comme ça nous permet de faire d'autres choses après. Enfin voilà, donc on peut beaucoup, beaucoup se réapproprier, avec le réalisateur toujours, mais se réapproprier l'histoire, aménager des choses. Et c'est souvent des choses mieux que ce qu'on avait imaginé au scénar. C'est pas pour réparer forcément, c'est que d'un seul coup...
C'est pour servir l'œuvre.
Pour servir, ouais, complètement.
D'accord. Et alors, pour le coup, à un moment donné, on arrive à lâcher ce bébé, enfin ce montage, parce que...
Moi, je sens qu'à un moment, je me dis... voilà, je tatillonne sur plein de choses et je me dis, bon, bah, cette projo, ça va, quoi. Sinon, effectivement, tu pourrais ne jamais t'arrêter. Et des fois, tu rectifies encore et encore, et c'est moins bien. Parce que c'est vraiment un truc de ressenti. Moi, j'avais une petite citation de Coppola, dont je me souviens du tout sans lire mon truc. Moi, parce que ça parlait de ça. Bon,
de
je l'ai
tête,
plus.
Hein.
Voilà, bah, j'ai pu. Non. Ah oui, voilà. Le montage, c'est la combinaison de moments d'émotion humaine choisis et formant une sorte d'alchimie à la fin. J'aime bien une sorte de... Tu vois, bah, ça raconte ça, quoi.
Ouais. Sophie, je crois que tu nous as sélectionné un petit texte, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait.
C'est ça ?
Alors, j'ai fait une petite blague. donc, j'ai été regarder sur Internet, j'ai tapé monteur et je suis tombée sur le site de Manpower. Monteur assembleur, ça s'appelle. Et j'ai trouvé que la définition était géniale. Donc, si je peux vous
raconter. Ah, bah,
voilà. Alors, je ne sais pas si c'est dans le thème, mais... Parce que je trouvais que ça marchait vachement bien. Le monteur assemble un système à partir de pièces qui lui ont été fournies. Ça, on est d'accord. Il débute sa mission par la réception des éléments à assembler.
Complètement.
Il les identifie, puis il les façonne, les ponce, les plie, parfois les tord pour que ces pièces coïncident parfaitement entre elles. Une fois le montage fini, le monteur vérifie le bon fonctionnement de l'ensemble, mais aussi la qualité du fonctionnement. Il règle la tension des courroies, bon, la tension, voilà, ça marche, mais tout en œuvre pour assurer la cohérence et la durabilité de la machine qu'il vient d'assembler. En tant que spécialiste, le monteur exprime des recommandations sur les pièces afin qu'elles correspondent le mieux à son usage final.
Si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, une jeune fille, un jeune garçon, veut devenir monteuse, monteur, c'est quoi ton petit conseil, ton tricks ?
Mon tricks, alors, déjà, c'est pas facile. C'est sûr que c'est moins facile aujourd'hui parce qu'avant, il y avait tout... Alors là, au niveau professionnel, on avait tout un process. On était stagiaire, on passait assistant, on restait dans tout ce qu'on s'est dit. On restait longtemps. On passait beaucoup plus de temps en stage ou en assistanat qu'aujourd'hui. Donc concrètement, alors, il y a deux questions là. C'est est-ce que, comment on devient professionnel du truc ? Ben, on fait... alors, soit on fait une école, mais après, il faut quand même être stagiaire et tout ça. Donc, c'est quand même toujours un peu le même chemin, sauf qu'il y a beaucoup moins. Il n'y a plus de stagiaires. Il y a rarement des stagiaires, sauf sur les gros films.
Ouais.
Les assistants sont moins là. Et on demande aux assistants de connaître la machine, par exemple.
Ouais.
Donc, ça, on ne peut plus apprendre. Avant, on nous apprenait les gestes. Là, on n'apprend pas la vide aux gens qui viennent. La vide, c'est le logiciel de montage. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenez n'importe quoi comme logiciel. Moi, je prémonte mes making-of à moi sur iMovie, par exemple. C'est hyper facile. Enfin, je veux dire, c'est peu importe le logiciel et le truc, on tourne, on essaye des trucs et on voit ce qui se passe. Et puis on essaye de rentrer après dans une petite équipe, ce qui est un peu long, mais voilà, il faut s'accrocher parce qu'on y arrive, quoi.
Ouais. Et puis, il n'y a pas besoin de forcément vous soyez passé par une école. Tu n'es pas passé par une école.
Moi, je n'ai pas passé par...
Tu n'es pas passé par qui étaient dans le métier, donc oui.
Oui, je ne suis pas passé par une école. Après, c'est plus dur de dire je me mets dans un petit coin. Autant dans une salle de montage traditionnelle, on avait de la place et les gens pouvaient se planquer. Autant là, c'est compliqué pour un réalisateur ou même le monteur d'avoir quelqu'un qui regarde... si ce n'est l'assistant qui est là pour donner son avis et qu'on essaye d'intégrer au maximum dans le processus de création. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, mais moi, je suis sûre que si on a vraiment envie, on y arrive, quoi. on trouve des trucs, on réalise des petits cours. Cool. Donc, il y a quand même plein de cours qui se font. Mmh. Si j'avais une école, faire plein de courts-métrages, se mettre dans des équipes.
Ou même poser des CV dans les écoles de ciné où il n'y a jamais assez de monteurs.
Oui, voilà, c'est ça. On parlait du BTS Jacques Prévert.
Jacques Prévert.
Où, effectivement, ils ont besoin de main-d'œuvre parfois. Et puis, ne pas avoir peur de faire... Ouais, je pense que, tu vois, même sur les tournages et tout, de filer un coup de main, puis au montage, tu viens aider à synchroniser. Voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre n'importe quoi, de se dire, je vais bosser la nuit, je vais faire le dernier truc un peu nul, ou même aller chercher les sandwichs, voilà. Et qu'à un moment, hop, il y a une petite porte, puis une plus grande, et puis on rentre comme ça, quoi. Non, j'y crois, moi, encore à ça.
Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
C'était trop bien.
Voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode de Aujourd'hui ça tourne pas, l'émission qui interroge les métiers du cinéma une fois par mois. Elle a été enregistrée avec Sophie Rennes le 14 novembre. On remercie Cécile Cabane et Andréa Brusque pour leur chronique et leur lecture, Nelly Bousselier pour le montage son, Mathieu Langlais pour le mixage de l'émission, Guillaume Roussel pour la musique du générique. On remercie aussi Ombline, Sylviane et Louis de Radio Alliance. C'était Pascal Sardaby et moi-même, Grégoire Sivan, en direct du deuxième épisode de Aujourd'hui ça tourne pas. Rendez-vous le mois prochain.